Thank you, Raina.
Oui, merci, Raina. Je vais passer la parole à Philippe Ingrin, qui s'occupe du programme AST à la Commission européenne jusqu'à récemment.
Comme Brian vient de le dire, j'étais jusqu'à il y a une semaine chef de secteur pour les technologies logicielles et la société dans les programmes de recherche européens. Donc il est important que je précise que je m'exprime ici à titre strictement personnel. Et bon, si vous voulez connaître le point de vue de mon ancien employeur, ben, il y a toujours encore pas mal de gens qui travaillent là-bas à qui le demander. Je vais vous donner un peu le point de vue de quelqu'un qui a été un chercheur en informatique, mais aussi qui a passé des années de sa vie à essayer de faire émerger une économie florissante du logiciel en Europe et à favoriser une innovation non seulement en quantité mais en qualité. Le sujet, je vous propose de ne pas regarder les transparents parce que vous les avez dans vos dossiers et vous allez avoir un tel torticolis si vous passez un temps fou avec la tête tournée que ça ne sera pas très productif. peut-être, oui. Sur un sujet aussi controversé que la brevetabilité des logiciels, évidemment, les positions tendent à devenir extrêmement controversé je me répète, et le résultat, c'est que souvent, on n'écoute plus les arguments des autres. Alors, ce que je vais essayer, c'est justement de traiter les arguments qui sont mis en avant par les gens qui sont favorables à une certaine officialisation de la brevetabilité des logiciels. Premier de ces arguments, c'est la nécessité des brevets comme moyen de créer des incitations à investir dans l'innovation. Alors, là, si on regarde un peu à tête reposée cet argument, on se rend compte que d'abord, sur un plan strictement quantitatif ou très général, l'industrie du logiciel a connu une croissance énorme avec des investissements gigantesques à une époque où il n'y avait pas du tout de brevets. Richard Stallman l'a expliqué tout à l'heure. Et les études plus détaillées d'économistes, en particulier sur l'expérience américaine, qui ont étudié la relation entre les pratiques de dépôt de brevets, l'existence de portfolios de brevets et l'investissement, ont montré une relation inverse, faiblement inverse, mais inverse. C'est-à-dire que les entreprises qui brevetaient beaucoup avaient, par rapport à autrefois, une tendance à diminuer leur investissement de recherche et développement. Plus généralement, on se rend compte que dans le système américain actuel, on a environ 30% des dépenses de recherche et développement qui vont à la gestion des brevets et des problèmes liés aux brevets. Litiges, protection a priori contre de futurs litiges, frais de préparation et de dépôt et de gestion des brevets. Alors, c'est très paradoxal parce qu'on est en train de discuter des moyens de soutenir l'investissement dans la recherche et le développement par les entreprises. On est en train de se demander, faut-il créer des crédits d'impôt, faire des subventions, etc. Et en même temps, on laisse se développer un système hors de tout contrôle qui crée un niveau de taxe sur la recherche et le développement qui est un niveau où je peux vous dire, si ce n'était pas un système indépendant, entre guillemets, si c'était l'État qui voulait créer de telles taxes, je crois qu'il aurait beaucoup de difficultés. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que la question quantitative. Il y a eu aussi la question de l'investissement pour quelle innovation. Est-ce que nous voulons que les sociétés investissent dans la protection de leurs modèles commerciaux et de leurs positions acquises, ou est-ce que nous voulons qu'elles essayent de développer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles solidités ou facilités d'usage pour les logiciels et leurs usagers. Et puis, il y a un autre point qu'il faut toujours garder à l'esprit lorsqu'on considère le parallèle entre les industries traditionnellement usagées de brevets, les industries manufacturières, mécaniques, chimiques, et le cas du logiciel. Dans l'industrie chimique, pour un produit, on a un brevet. Pour un procédé de production, on a 4-5 brevets au maximum. Pour le logiciel, on a 1000 brevets par produit. Qu'est-ce que ça veut dire sur la relation qu'il y a entre investissement, incitation à l'investissement et brevets? À mon avis, ce que ça veut dire, c'est que les brevets sont simplement utilisés pour protéger des positions acquises. Maintenant, est-ce que les brevets sont favorables à l'entrée des petites et moyennes entreprises dans le marché? C'est une question un peu rhétorique, parce que je crois que toute personne qui l'a considérée avec honnêteté sait plus ou moins que ce n'est pas le cas. Mais enfin, essayons quand même de la discuter. Nous avons un marché des technologies de l'information et de la communication qui est extraordinairement favorable à l'émergence de monopoles et d'oligopoles. Dans ce, nous le savons tous, simplement à cause des retours croissants, des bénéfices à avoir déjà beaucoup d'usagers pour un logiciel, eh bien, il est très facile, à partir d'un certain stade, de créer des positions dominantes sur le marché. Dans ce contexte, il est nécessaire qu'on fasse un petit peu attention à la répartition des portefeuilles de brevets, qui possède les brevets, et je vais y revenir, et aux perspectives réelles d'arriver à faire valoir un brevet pour une petite et moyenne entreprise. Nous avons déjà entendu plusieurs exemples concrets de la part des responsables de petites et moyennes entreprises nous montrant à quel point il était peu probable, sauf cas exceptionnel, qu'une petite entreprise puisse arriver à faire valoir dans une situation de conflit un brevet face à des multinationales qui en possèdent des milliers. Maintenant, une question qui est peut-être là pas une question rhétorique. Est-ce que les innovateurs logiciels ont besoin de brevets pour avoir accès au capital risque et au financement de l'innovation? Ça, c'est, si vous voulez, il y a beaucoup de gens très honnêtes qui vous disent « Écoutez, moi, j'ai vu un entrepreneur et il m'a dit que quand il a été voir son fonds de capital risque, on lui a demandé s'il avait des brevets et que s'il n'en avait pas, il n'était pas question qu'on lui finance son entreprise. » Alors là, il faut à la fois reconnaître que c'est une histoire vraie et en même temps bien comprendre pourquoi cette histoire est vraie. Parce qu'il y a deux types de situations. Si on accepte les brevets logiciels, si certaines entreprises ou certains innovateurs en ont, alors évidemment, les fonds de capital risque vont préférer les gens qui ont ces brevets. En général, ils ne comprennent pas vraiment la technique, hein, donc ils veulent des espèces de titres de crédit. Hein, et ils vont prendre ce qui est disponible et ils vont prendre le brevet. Mais par contre, si on crée une situation dans laquelle, sur un marché suffisamment large, comme le marché européen, il n'y a pas de brevet dans un domaine donné, alors est-ce que vous croyez que les fonds de capital risque vont arrêter d'investir dans l'innovation logicielle alors que c'est la technologie générique qui sous-tend l'innovation dans tous les domaines? Eh bien, il se trouve que ce n'est pas seulement une question rhétorique, parce que cette expérience, nous l'avons fait. Nous l'avons fait dans la première moitié des années 90, au moins jusqu'en 97-98. Et à l'époque, il y avait des conditions beaucoup plus restrictives pour la brevetabilité des logiciels en Europe qu'aux États-Unis. Eh bien, source OCDE, la part de l'investissement de capital risque qui était investi dans l'innovation logicielle en Europe était plus élevé que cette part aux États-Unis. Alors bien sûr, on peut quand même constater qu'il n'y avait pas du tout assez d'investissement de capital risque en Europe. Mais au niveau des proportions, on a eu vraiment une expérience concrète qui a montré que les brevets, simplement, c'est un système qui se rend nécessaire lui-même. Qui possède les stocks de brevets ? Des derniers chiffres que j'ai pu analyser concernant l'Office européen des brevets, 10 sociétés possèdent 24% des brevets liés aux logiciels qui sont en cours de validité. 50 compagnies en possèdent 43%. Je parle de, et c'est très important de raisonner en stock et pas simplement combien de brevets ont été donnés une année donnée, parce que la réalité, quand vous êtes un entrepreneur dans une petite et moyenne entreprise, c'est qui possède les stocks. C'est pas qui a eu un brevet en 2001. Inutile de préciser que l'essentiel de ces compagnies sont américaines, que le deuxième groupe est le groupe de sociétés essentiellement japonaises et coréennes. Aux États-Unis, dans une étude récente, James Besson et Hunt, du MIT et de la Federal Reserve Bank, ont montré que les 5% des détenteurs de brevets déposés entre 1991 et 1995 et qui peuvent être considérés comme des brevets logiciels possèdent 63% de tous les brevets logiciels. Si l'on regarde les brevets qui sont actuellement délivrés par l'Office américain des brevets, selon les estimations, selon comment on définit ce qu'est un brevet logiciel, il y en a 72 à 80% qui sont détenus par des compagnies basées aux États-Unis ou au Canada, 12 à 15% par des compagnies asiatiques et 5 à 8% par les Européens. Est-ce qu'il ne faut pas se poser un petit peu la question de ce que, s'il y a une confirmation de la validité de breveter des logiciels, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'importation massive de ces brevets ? Maintenant, la question de la sécurité, de la certitude juridique. J'ai appris à me méfier quand j'entends des phrases comme oh, nous sommes en désaccord sur beaucoup de choses, mais tout le monde est d'accord qu'il faut créer plus de certitude juridique. Quand j'entends ça, en général, je sais qu'il y a quelque chose de vraiment pas clair qui est en train de se préparer. Mais néanmoins, ce que vient de dire Rainer Beck, à savoir ce besoin d'avoir une clarté sur ce qui est brevetable ou non, nous devons prendre ça très sérieusement. À mon avis, il y a eu deux types de textes qui avaient cette clarté. Les premiers brouillons de la directive, vous savez, ceux que les lobbyistes m'amenaient avant que je les ai vus, qui disaient simplement toutes les idées sous-jacentes des logiciels doivent être brevetées. Et à vrai dire, à cette époque, l'OEB avait une proposition de supprimer toutes les exclusions de l'article 52.2 de la Convention de Munich, y compris les méthodes mathématiques, la présentation de l'information, les jeux, tout ça. Bon, aujourd'hui, comme il y a eu des réactions hostiles à ça, nous avons un texte qui est devenu un texte extrêmement compliqué. Ce Parlement a fait jusqu'à présent un travail remarquable à travers les deux comités qui ont finalisé leur opinion, le comité culture, éducation et jeunesse et le comité industrie, commerce, recherche et énergie. Ces deux comités ont voté des opinions qui ont des définitions claires de ce qui est technique, en particulier dans le comité culture, et des définitions claires de qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une revendication, en particulier dans le comité ITRE. J'espère que la suite du processus nous laissera cette clarté. Maintenant, dans votre dossier, je vais reprendre, si vous voulez, une casquette d'informaticien. Ouais, j'ai fini, c'est mon dernier transparent. Vous avez une pétition qui a été signée par 33 des plus grands informaticiens européens. Il y a là-dedans tous les gens qui ont reçu dans les pays de l'Union européenne des prix comme le Turing Award, le Gödel Award, le prix de l'Association européenne d'informatique. Et lisez-la avec attention. Elle se conclut sur la phrase suivante. Nous demandons aux membres du Parlement européen, quel que soit leur parti, d'adopter un texte qui rendra clairement impossible aujourd'hui et demain d'obtenir des brevets pour les idées sous-jacentes des logiciels et les algorithmes, pour les méthodes de traitement de l'information, pour les représentations des informations et des données, et pour l'interaction logicielle entre les êtres humains et les ordinateurs. Alors, vous savez, ces gens ne signent pas souvent des pétitions. Hein. Ce ne sont pas des scientifiques de Tour d'Ivoire. Il y en a beaucoup qui ont créé des entreprises sont assez florissantes. Mais c'est un geste un peu exceptionnel. Donc je crois qu'au moins, leur demande mérite attention. C'est-à-dire, est-ce que ou non, ces choses qu'ils listent doivent être brevetables. Et si vous pensez qu'actuellement, la pratique de l'Office européen des brevets n'est pas de les breveter. Hein. Il y a des polémiques là-dessus. Il y a des gens qui disent « Oh non, l'Office européen des brevets ne délivre pas de brevets pour ça ». Eh bien, si vous pensez cela, alors il n'y a qu'à confirmer cette pratique en le disant clairement dans un texte. Hein. Si vous pensez comme moi qu'en réalité, l'Office européen des brevets délivre des brevets sur toutes ces choses, alors il est indispensable de définir un acquis communautaire qui fera que, pour le futur, nous n'en subirons pas toutes les conséquences.
Thank you, Philippe.
Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, je pense maintenant que nous pouvons passer au panel suivant. Eh bien, je vous remercie. Alors, Neil, pouvez-vous vous rapprocher de la table? Et les trois autres orateurs de ce panel?
One is there. Lemke and Narczynski.
Narczynski et Monsieur Lemke.
Is Ellie van Gersel there?
Est-ce qu'Ellie van Gersel est là? Ou est-ce qu'elle va venir un petit peu plus tard, Laurence? Est-ce que vous pouvez nous le dire?
OK, it's yours. Well, thank you.
Eh bien, merci. Eh bien, bon nombre d'entre vous ont assisté à la réunion d'hier à l'hôtel de Rhin. Mais enfin, certains d'entre vous n'ont pas assisté à la conférence d'hier qui s'est donnée à l'hôtel. Alors, je voulais simplement faire le point, Monsieur Legrain. Vous a dit qu'il voyait d'un œil favorable le rapport de la Commission culturelle du Parlement européen et de la Commission de la recherche, mais il y a aussi l'autre commission qui s'occupe de tout ce qui est informatique et des inventions qui tournent autour de l'informatique. Et c'est nous qui devons présenter le rapport définitif au Parlement sur lequel il va falloir voter. Alors, pour l'instant, vous l'avez vu d'ailleurs dans les dossiers, nous voyons d'un œil critique le rapport de Mme Arlene McCarthy, avec quelques amendements tout à fait modestes. Et ce sera devra être présenté au Parlement. Bon, ça n'arrivera pas, bien sûr, mais le problème principal, il s'agit de voir, en fait, que va-t-on faire du problème que nous rencontrons tous. Alors, quels sont les amendements que nous allons pouvoir adopter pour faire en sorte que la question de la brevetabilité des inventions de type logiciel, non, plutôt, la brevetabilité des inventions par ordinateur ne soit pas une espèce de cheval de Troie qui nous permette de breveter le logiciel, ce qui serait la véritable catastrophe décrite par les collègues. Alors, je vous l'ai dit hier, je suis convaincue maintenant, moi-même, que le plus important pour le Parlement européen, c'est de faire en sorte que la directive reprenne des phrases très claires sur ce qui ne sera pas une infraction commise sur un brevet. Je sais que c'est déjà trop tard pour empêcher certains brevets qui concernent le logiciel d'être adopté. D'ailleurs, l'Office européen des brevets, je vais aussi citer une citation. Ce brevet permet aux fabricants de de ne pas correspondre directement avec l'ordinateur qui paye, de manière à ce que l'utilisateur puisse acheter le produit sans que ce soit mis dans l'ordinateur. Et à ce moment-là, on ne saura pas qui sont les utilisateurs et les acheteurs de ce produit. Il me semble que l'on s'écarte beaucoup du type d'invention dont Richard vous a parlé ce matin. C'est-à-dire l'homme qui travaillerait avec ses éprouvettes sur son ordinateur ou dans son laboratoire. Je crois qu'on en est vraiment loin. Nous avons ce type de brevet en Europe, mais le gros problème, d'après nous, c'est ce qui va empêcher les gens de faire cela. Alors si, franchement, on arrive à baliser cela, c'est-à-dire que le traitement de données en soi ne pourra jamais être une infraction sur un brevet, ou alors une information non plus. Donc là, je crois qu'il y a déjà quelques amendements. Ceux qui le désirent peuvent le voir affiché sur le site web du Parlement. Si vous avez des critiques, dites-le nous, puisque de toute façon, il faut que l'on soit le plus informé, le plus rapidement possible, puisque ce sera voté d'ici quelques semaines. Voilà, c'est tout de mon côté. C'est moi qui suis l'animateur de cette session. Nous avons trois orateurs qui sont prévus à notre panel, M. Lemke. Et ensuite, M. Narsinski, à qui je souhaite la bienvenue, et M. Gertens. Voilà, en tout cas, j'ai donc tous les noms devant moi, et ce qui est de toute façon tout à fait inhabituel, et je vais les prendre dans l'ordre. J'ai le grand plaisir de demander au directeur de Power Media, M. Narsinski, de Pologne, de nous faire un petit exposé. À vous la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Wojciech Narsinski, je viens de Pologne et je viens vous faire part de ma profonde préoccupation à l'égard de la directive sur les brevets. Le bureau des brevets polonais n'a pas émis de brevets sur les logiciels jusqu'à présent, ni d'ailleurs dans 5 ans, car l'Office polonais des brevets traite actuellement de demandes qui remontent à 5 ans. En fait, la Pologne ne connaît pas ce genre de situation et ça restera ainsi encore pendant 5 ans. Et là, il y a tout de même une marge par rapport aux États-Unis et par rapport à l'Europe. Le bureau polonais des brevets remplit totalement ses obligations internationales qui disent que le logiciel n'est pas brevetable. Pour ma part, je dirige une toute petite entreprise, mais en Pologne, petit, ça veut vraiment dire petit. Ce n'est pas une entreprise de 100 hommes, mais de 10 hommes plutôt. Nous avons un service web pour la comptabilité destinée aux petites sociétés. Donc, je connais bien le marché, évidemment, puisque moi-même, je suis une petite société, mais aussi parce que nous servons les petites sociétés. Et je sais vraiment que ces gens n'ont pas le temps de breveter leur logiciel, ni le temps, ni l'argent d'ailleurs. J'ai bien l'impression que les sociétés polonaises vont être touchées de plein fouet, bien plus que les sociétés européennes, car si quelqu'un ne se lance pas dans ce champ de mine, je puis vous dire que les moins préparés ou les moins armés, ce seraient les compagnies polonaises. Ils ont une forte, de très petite taille, ils n'ont aucune ressource, aucune expérience et aucun brevet déposé nulle part ailleurs dans le monde et qui concerne les logiciels. Bien. Eh bien, j'ai le grand plaisir de passer la parole à Thorsten Lemke de Lemke Software d'Allemagne qui va nous présenter son exposé.
Bonjour, je tiendrai mon discours en allemand. Tout d'abord, je me félicite d'être là aujourd'hui. Et en tant que petite entreprise, j'ai déjà fait une certaine expérience du problème de la brevetabilité. Je vais vous l'exposer. Notre produit principal est le Graphic Converter pour le Macintosh de Apple. Au cours des 10 dernières années, ce programme est devenu un véritable standard, une véritable norme pour la scène Apple, puisqu'il permet aux utilisateurs de convertir des images de sources les plus diverses et de les utiliser. Ce qui est intéressant également, c'est qu'entre-temps, j'ai plus de 100 000 clients dans le monde. Et il est important de savoir que 55% de ces clients viennent des États-Unis, du Canada, 20% du Japon, 25% d'Europe et 5% du reste du monde. Notre produit est utilisé tant par les personnes privées que par les grandes entreprises et également pour les institutions de formation. Bon, les grands clients sont par exemple le Los Alamos National Laboratory aux États-Unis, Motorola, différentes universités et différentes écoles américaines également. En outre, entre-temps, le produit est également vendu avec toute une série d'autres logiciels Macintosh et Apple. Je vous ai décrit le produit. Plus de 180 formats d'images peuvent aujourd'hui être convertis et on peut ensuite procéder à toute une série d'autres manipulations de ces images. L'utilisateur peut donc très facilement utiliser des images sans disposer pour autant du logiciel d'origine. Le problème, c'est que de nombreux fabricants ont des brevets sur les algorithmes de compression. Quel est le but de ces brevets? Tout d'abord, les fabricants veulent bien sûr lier le client à leur propre produit. Pour que en forçant le client à utiliser toujours le logiciel d'origine pour ouvrir certains fichiers. Mais l'entreprise Unisys aux États-Unis a appliqué une autre variante. Ils ont pris un brevet sur le système de compression LZW qui est utilisé sur Internet, mais également dans les modems. L'entreprise a d'abord attendu la dissémination du format GIF et ensuite toutes les entreprises qui ont développé du logiciel avec ce format ont reçu une lettre et dans laquelle on leur demandait de prendre un brevet, de payer pour ce brevet. Alors moi, bien sûr, petite entreprise, je n'étais pas en mesure de consulter de grands avocats et de grands juristes. J'ai donc été contraint d'accepter, de conclure ce contrat. Mais Unisys a fixé tout librement les redevances, les droits. J'ai dû les accepter tels quels. Il n'y avait absolument aucune marge de négociation. Un recours en justice aurait également été extrêmement difficile puisque Unisys se trouve aux États-Unis et le fort compétent, l'autorité judiciaire compétente était également américaine. Et puis, en tant que petite entreprise, autre chose encore, dans le contrat de licence, je dois payer annuellement Unisys certaines redevances et je dois également publier tous les revenus que je retire de leurs produits. Cela veut dire que Unisys peut éventuellement également transmettre ces données à certains concurrents parce que le contrat de licence ne l'exclut pas. Alors, quelle est la conclusion que je tire de tout cela ? Pour moi, les brevets sur les algorithmes ne font que freiner mes propres développements. Parce que pour l'implémentation d'une application qui ne dure que quelques heures, quelquefois, je ne peux pas à chaque fois voir s'il existe un brevet. Et je suis donc soumis à toutes les contraintes de licence, à tous des droits. Si ce système devait être rendu en Europe, à n'importe quel moment, une entreprise pourrait venir frapper à ma porte et dire que j'ai appliqué une procédure qui était brevetée. Et si un jour ces droits de licence deviennent trop élevés, ce sera la faillite. La faillite. Je demande donc au Parlement européen de voter contre cette directive.
Thank you. Now the last speaker.
Merci. Le dernier orateur, c'est Monsieur Keltens, donc directeur de Synapse.
Merci beaucoup. Je m'appelle Monsieur Philippe Keltens,
Alors, je suis directeur d'une compagnie, Synapse, une petite compagnie qui se trouve juste à l'extérieur de Lisbonne. Nous sommes une véritable société de logiciels mise sur pied en 2001. Je ne dirais pas que nous sommes petits, je dirais que nous sommes minuscules. 10 personnes de toutes les nationalités, du portugais, en finlandais, hein, quelqu'un de Singapour, italien, enfin, c'est totalement multiculturel, ce qui veut dire que notre langue de travail est bien sûr l'anglais. Nous avons des clients à travers le monde, surtout dans l'Union, mais aussi aux États-Unis, au Japon, entre autres. La compagnie a été mise sur pied pour développer un marché et une plateforme d'identité. Alors, nos produits sont des systèmes de grande performance pour gérer l'information sur une personne et sur son identité de façon tout à fait sûre, de manière à ce que les informations à caractère personnel puissent être traitées de façon tout à fait confidentielle, que ça ne tombe pas dans des mains indues ou qu'on ne puisse pas, abuser de ces informations. Bien sûr, je voudrais passer plus de temps à vous parler de nos produits, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Alors, le développement de nos produits a pris plusieurs années hommes et cela a demandé beaucoup de mobilisation. Notre avantage concurrentiel, c'est bien sûr le fait que l'on peut tirer des droits d'auteur sur nous. Alors, ce qui est concurrentiel chez nous, c'est ce sont des codes, disons, qui ont été très élaborés, qui sont très équilibrés et qui ont un délai d'exécution très court. Alors, je vous parlais de performance tout à l'heure. Bon, peu importe. De toute manière, vous n'allez pas pouvoir nous battre de vitesse. Nous avons vraiment pris beaucoup de temps à faire en sorte que l'équilibre soit respecté à la perfection. En fait, si vous êtes un concurrent et que vous voulez, par exemple, copier notre produit et en sortir un qui ressemble le nôtre, bon, d'abord, il sera très difficile pour vous d'avoir un meilleur produit que le nôtre. Et même si vous y arrivez, de toute façon, nous avons déjà pris de l'avance et nous vous battrons au finish. Alors, j'espère que vous ne me taxerez pas d'arrogance, mais c'est exactement ce à quoi sert le high-tech et à quoi sert cette industrie. C'est ainsi qu'on en profite, par l'innovation, disons. Alors, qu'est-ce qui fait avancer l'innovation? Pour nous, c'est le faisceau de talents, la mise en commun de tous ces cerveaux en recherche et en développement. C'est à cela que nous investissons. Si nous devions consacrer une bonne partie de notre argent à engager des avocats spécialisés en licence et en protection de brevets ou en dépôt de brevets, la situation pourrait être renversée à tel point que nous n'aurions même pas pu lancer notre entreprise. Réfléchissez, vous avez sans doute entendu parler des compagnies de ce logiciel qui avaient commencé tout petit dans un garage. Bon, en réalité, c'est sans doute au foyer qu'elles commencent et ensuite elles grossissent. Vous avez donc besoin de brillants cerveaux, un environnement fertile destiné à la recherche et au développement. Et finalement, vous allez devoir faire ça, disons, en tirant un peu sur la corde, avec fort peu d'argent. Bon, le Portugal n'est peut-être pas très connu pour cela, mais je puis vous dire que nous avons vraiment des gens tout à fait brillants qui sortent des universités, qui parlent très bien l'anglais, le coût de la vie, les salaires sont beaucoup et de loin donc inférieurs à ceux des autres pays. Pour ce qui est des bureaux, le coût, l'espace de bureau, ça coûte beaucoup moins cher que dans les autres métropoles. Et quand vous devez importer des gens, de toute façon, je crois que les gens veulent vraiment venir au Portugal, puisque de toute façon, c'est au Portugal qu'ils passent vraiment les vacances. Alors, je pense que ce n'est pas la même chose pour Paris ou pour Londres. Enfin, je ne sais pas. Mais je puis vous assurer que dans la plupart des cas, lorsque vous démarrez au Portugal, vous devez être prêt à faire cavalier seul. Bon, de toute façon, le capital risque, personne n'en a jamais entendu parler pratiquement au Portugal. La plupart des petites entreprises essayent de faire appel à toutes sortes d'astuces, font des appels de fonds, vous utilisez les cerveaux que vous avez, disons, et les prêtez à quelqu'un d'autre, vous leur demander de payer et ensuite vous récupérez l'argent qui est investi dans votre compagnie. Bon, le problème, c'est bien sûr que vous, vous devrez vous priver de ces gens qui vont s'adonner à la recherche et au développement. Ce qui fait que vous avez un cycle de développement un petit peu plus long puisque vous devez vous passer d'une partie de la main-d'œuvre. Bon, j'essaie d'être très neutre ici. Donc, disons que pour que protéger mon investissement, il faut que j'engage des juristes qui vont s'occuper de brevets, de protection de brevets, pour m'assurer qu'il n'y a pas eu d'infraction, ou alors des juristes qui, ou des avocats qui vont devoir, que je vais devoir payer pour déposer des brevets. Alors, réfléchissez. Bon, les hommes brillants, ce sont des, comme des musiciens, il faut leur laisser le... Vous devez leur lâcher du lest, en quelque sorte. Car si vous les bridez trop, ils vont vous quitter. Sans parler d'ailleurs du type de coût supplémentaire que cela pourrait représenter. Donc, à toutes les étapes de développement, il faut toujours se poser la question. Est-ce que c'est brevetable? Est-ce qu'on a, on peut se... offrir le luxe de breveter l'invention, parce que de toute façon, si ce n'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Et de toute façon, aux États-Unis, bon nombre de compagnies de logiciels vous disent qu'effectivement, ils ont quelques brevets en logiciel. Disons que c'est en guise de self-defense. Ils n'ont jamais l'intention de traduire l'opposant ou l'adversaire devant les tribunaux, parce que de toute façon, ça leur coûterait trop cher. Et s'ils faisaient ainsi, ça... aurait l'effet inverse sur eux. On ferait pareil sur eux. Et ça accroîtrait le coût et leurs frais. Alors, si vous pouvez vraiment investir beaucoup de votre temps et de votre argent pour monter une compagnie et la faire devenir, une compagnie qui tourne bien, je crois que vous y consacrerez suffisamment d'énergie. Bon, c'est vrai qu'il peut arriver que l'on soit traduit devant les tribunaux. Si vous avez consacré beaucoup de temps, beaucoup d'argent à monter votre société, je dois dire que, franchement, je ne sais pas vraiment s'il y a quelque chose qui nous attend au niveau du brevet quand on met sur pied un produit. Donc, même si je me consacre beaucoup à la recherche, je ne suis jamais sûre qu'il n'y aura pas quelqu'un qui sortira un brevet sur le même produit avant nous. Donc, il faut peut-être avoir davantage de protection pour ce qui est des droits d'auteur. C'est ce que vous dit d'ailleurs le ministère. Mais ça risque, ça accroît les risques et vous vous trouvez sur un véritable terrain miné. Ça va nous amener d'ailleurs à amener nos capitaux à l'extérieur du territoire de l'Europe ou des États-Unis, ce qui arrive déjà maintenant. Donc même si on vend aux États-Unis, nos ressources et notre propriété intellectuelle est basée ou sont basées aux États-Unis pour l'instant, en tout cas. Là où, justement, il n'y a pas de brevet sur les logiciels pour l'instant. Alors, au pire, on pourrait être, disons, évincé d'un gros marché. Mais là encore, la propriété intellectuelle pourrait être sauvegardée. Je vais vous citer un autre exemple qui expliquerait pourquoi les brevets sur les logiciels seraient une menace pour les compagnies et pas une protection. Supposons que vous soyez une grosse compagnie avec un brevet logiciel et vous voudriez d'ailleurs acheter nos produits, racheter la technologie. Ça simplifierait toutes les choses. Alors, voici comment vous devez vous y prendre. Donc, traduisez-nous devant les tribunaux en infraction. Peu importe que vous ayez tort ou raison, mais de toute façon, si vous êtes un gros intervenant sur le marché, vous pourrez nous, mettre sur la paille, carrément, en nous traduisant devant les tribunaux, et ensuite nous racheter. Alors, notre position, c'est que les brevets sur les logiciels, c'est vraiment un pas dans la mauvaise direction. Nous espérons vraiment que le Parlement se rendra compte des conséquences très importantes que les petites sociétés de logiciels comme nous, qui se trouvent dans les régions les plus défavorisées, quelles seraient les conséquences pour eux si la directive était passée? Je pense que la législation en matière de droit d'auteur nous protège suffisamment et que c'est donc tout ce dont nous avons besoin pour l'instant.
Si three really excellent presentations.
Trois exposés excellents et extrêmement succincts, ce qui nous donne encore beaucoup de temps pour débattre avant les conclusions de Dany. Alors, j'ai une intervention là, Richard Tolman d'abord aussi, une là-bas, oui, d'accord. Est-ce que je peux demander si, dans cette salle, il y aurait quelqu'un qui serait disposé à soutenir ou à défendre certains aspects, quelque aspect que ce soit du projet directif. Vous, oui, très bien, monsieur. Alors, nous commençons par là, peut-être.
Et bonjour. Ma question, en fait, elle s'adresse aux économistes, c'est de savoir si une grande entreprise n'est pas plus rentable que plusieurs petites entreprises. Et si c'était le cas, ce serait peut-être un argument en faveur des brevets logiciels.
Could I say something about that?
Je voudrais réagir à cela. Les innovations sont de façon tout à fait classique initiées par de petites entreprises. Prenez les innovations dans le domaine des logiciels et même des matériels des 20 dernières années. C'est le cas. Ce que les grandes entreprises font, c'est constater qu'un nouveau produit est développé, une technologie nouvelle, intéressante, et ils rachètent la petite entreprise qui est à la base. C'est très rare que de grandes entreprises produisent de vraies innovations. Généralement, ce sont les petites. Pourquoi ? Parce que nous sommes plus créatifs. Il y a moins de politique chez nous, moins d'administration, moins de bureaucratie. On change beaucoup plus rapidement de cap, on est beaucoup plus flexible. Les grandes, c'est pas possible.
Hello, I'd like to add that.
Je voudrais ajouter qu'en Pologne, et il n'y a rien de drôle là-dedans, rien d'étrange, en Pologne, les petites entreprises sont à la base de 80% des recettes fiscales. 80% des recettes fiscales du pays.
Oui, peut-être que je devrais préciser, évidemment, quand je parle de rentabilité, je pense aux bénéfices de la société en général. Donc, je pense pas aux innovations particulièrement. Donc, ma question, c'est est-ce qu'une grande entreprise n'est pas plus rentable, profitable à la société que des petites entreprises, même si les petites entreprises innovent ?
Alors, je vais donner la parole à Richard Stallman et puis au monsieur là à ma droite. Je ne peux pas m'empêcher de répondre à cette question qui soit se fonde sur une comparaison totalement fallacieuse ou alors sur une hypothèse qui est totalement contraire à l'idée de la libre entreprise. Bientôt, vous irez me dire qu'une entreprise nationale serait plus rentable que toute une série de petites entreprises, donc pourquoi pas ne revenir au stalinisme ou au fascisme, ce qui est d'ailleurs du pareil au même. Non, c'est absurde, monsieur. C'est absurde. De toute manière, dans l'exposé que vous avez fait, moi j'ai bien aimé votre concept de protection contre les brevets. Parce que cela montre bien combien le mot protection peut induire en erreur. La protection, normalement, c'est empêcher quelque chose d'être détruit. Mais un programme informatique n'est pas détruit par l'utilisation de ce programme, par qui que ce soit. Donc, utiliser le mot protection, c'est une fausse vérité ou une demi-vérité. Il y a suffisamment de véracité dedans pour être avancé comme excuse, mais il y a suffisamment de faux dans ce concept pour induire les gens en erreur. La protection dont ont besoin les développeurs de logiciels, c'est une protection contre les brevets. Une protection contre tous ces instruments qui réduiraient à néant nos projets. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux pour nous que n'importe quelle concurrence ou n'importe quel concurrent. Et vous avez parlé aussi des musiciens. Et ça m'a rappelé une chose dont j'ai oublié de vous parler dans ma hâte. C'est une manière d'expliquer le danger du brevetage des logiciels pour ceux qui ne comprennent rien à la programmation. Bon nombre de gens écoutent la musique symphonique, la musique classique. Ça, c'est un terrain quand même beaucoup plus connu des œuvres intellectuelles humaines. Mais il y a pourtant beaucoup de similitudes entre les symphonies et les logiciels. Pour les deux, il y a une énorme quantité de détails. Mais pour que ça fonctionne, il faut que les détails collent. Et c'est ça le gros boulot. C'est ça le vrai boulot. Écrire une belle œuvre symphonique, ce n'est pas aller voler la bonne idée. C'est veiller à ce que toutes les pièces du puzzle trouvent leur place. Appliquer les idées. Mais il faut des idées, bien sûr. On n'écrit pas une symphonie sans commencer par avoir une ou plusieurs bonnes idées. Alors imaginez-vous que, au XVIIIe siècle, les gouvernements européens aient décidé de promouvoir le progrès de la musique symphonique par la brevetabilité des idées musicales. Toute idée musicale que l'on pouvait décrire en paroles, en mots, serait brevetée à partir du moment où elle était vraiment nouvelle. Et imaginez-vous que ça se poursuive jusqu'au XIXe siècle. Et imaginez-vous maintenant que vous êtes Beethoven et vous voulez écrire une symphonie. Eh bien, ça va être vachement difficile de ne pas être traduit en justice pour les idées que vous allez utiliser dans votre symphonie. Et vous n'aurez plus le temps et les moyens de veiller à écrire une belle symphonie. Bon, nous, de toute façon, on pourrait pas. Mais vous êtes Beethoven, dans mon exemple. Donc, vous pourriez au moins mettre toutes ces idées en place pour écrire une nouvelle belle symphonie. Mais toutes les idées avec lesquelles vous devriez travailler, elles seraient brevetées. Vous vous en plaindriez, non? Si vous êtes Beethoven, vous allez vous plaindre, c'est sûr. Mais les détenteurs des brevets vous répondraient « Mais vous êtes jaloux, monsieur Beethoven ». Parce que c'était nos idées d'abord, et ce n'est pas juste de voler nos idées. Alors allez trouver vos autres et propres bonnes idées. Alors Beethoven a utilisé bon nombre de nouvelles idées, ce que font tous les compositeurs, mais il a toujours dû les combiner avec bon nombre de vieilles idées, de bonnes vieilles idées, pour écrire une musique reconnaissable. Si vous voulez écrire de la musique en ne vous basant que sur des idées nouvelles, c'est immangeable. Pierre Boulez a essayé de le faire, personne ne l'a écouté. Donc Beethoven avait de bonnes raisons de ne pas utiliser exclusivement des nouvelles idées et de les combiner plutôt avec de bonnes vieilles idées. Alors bien sûr, une symphonie c'est gigantesque, il y a beaucoup d'idées utilisées à différents endroits de la symphonie. Je crois que ça illustre bien le danger de la brevetabilité des logiciels. Un programme, ça combine également tout plein d'idées. Si on avait un brevet pour un produit, eh bien n'importe quel produit nouveau n'aurait qu'un brevet. Et celui qui développe ce produit, le développeur, pourrait obtenir le brevet. Mais c'est pas comme cela, c'est comme pour une symphonie.
Thank you. I assume that Lily everybody in the
bon, alors, je pense que vous voulez écraser dans l'œuf ce projet de directive. Ma question va plus loin. Bon, mettons, tout marche bien. Non, pas cette directive. Quelle sera la situation? J'ai entendu hier et aujourd'hui, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, la législation américaine ne va pas changer. La concurrence entre l'Union européenne et les Américains sera encore plus forte, ou du moins pareil, car tous les exemples, IBM, Microsoft, etc., tout ça, ça va continuer. Deuxièmement, même dans les études qui ont été mentionnées, ben, il faut se poser une question. Passe-t-il? Il y a le copyright. C'est plus de 20 ans, c'est même 70 ans après la mort de l'auteur que c'est encore valable. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le domaine de l'ordinateur il y a une soixantaine d'années. Mais bon, ce qu'il faut faire, c'est protéger l'inventeur de logiciels en Europe, le copyright. La législation en matière de base de données. Ce que j'ai entendu ici, c'est assez bizarre. Moi, je suis avocat, notamment pour le copyright. Alors, on me dit... Même si vous n'avez pas le brevet, vous ne pensez pas qu'il y aura une intervention à part des avocats à propos du copyright? Alors, pour la musique, même Mozart, s'il va chez quelqu'un pour demander un brevet, eh bien, il ne serait pas protégé parce que ce sont des copies d'autres domaines déjà. Alors, monsieur Lessing, à propos du copyright, ma question? Maintenant, je la pose aux membres du Parlement européen. Il n'y a pas de directive. Parfait. Comment va-t-on protéger l'inventeur de logiciels en Europe demain? Moi, je réponds simplement que j'aimerais une directive, mais une directive modifiée, amendée, qui montre clairement ce qui ne peut pas être considéré comme une restriction ou un dépassement des brevets. Bon. Van Plooy, le rapporteur de la commission de l'industrie du Parlement, parmi nous, s'occupe beaucoup de cela. Elle veut répondre à votre observation, je pense. Merci, mesdames et messieurs. Bon, je m'en veux. Je n'ai pas écouté tout ce que vous avez dit ce matin, malheureusement, donc je vais peut-être répéter certaines choses. Mais j'espère être clair. L'intervention de Jacques, à mon avis, est une bonne intervention. Moi, je suis en faveur d'une directive. Que les choses soient claires. Le but de la directive, c'est d'harmoniser la législation européenne. C'est une question très importante. Dans les différents États membres, à l'heure actuelle, les pratiques sont différentes. Et ça, c'est mauvais. Il faut créer, en fait, les mêmes chances pour tous en Europe. Mais les limites, les conditions de la brevetabilité doivent être précises. À l'heure actuelle, en matière de brevets, on se fonde sur les règles de l'Office européen des brevets, de l'OEB. Il y a une incertitude juridique qui découle du fait que les différents États membres n'appliquent pas toujours ces règles de la même façon. Et ces règles n'ont pas été mises à l'épreuve. La question, c'est donc de savoir si les pouvoirs délégués à l'OEB sont compatibles avec les exigences découlant de l'harmonisation de la législation européenne et compatibles avec les principes de transparence et de responsabilité. Ça, c'est un amendement. Dans le texte déposé par M. Caputo et moi-même, adopté d'ailleurs au sein de la Commission de l'Industrie, je suis très très content parce que c'est un point très important. Les États membres ont également une responsabilité importante en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation. Si l'interprétation et la mise en œuvre de la nouvelle législation n'est pas la même en fonction des États membres, eh bien, l'incertitude juridique restera. Et ça aura des conséquences négatives sur le marché intérieur. Donc, il faut faire quelque chose. La Commission est obligée de contrôler l'impact de la protection des brevets pour les inventions logicielles, ordinateurs, etc., sur l'innovation, la concurrence et les intérêts du secteur économique. Mais ça ne dépend pas uniquement des brevets eux-mêmes, mais ça dépend également de la manière dont les détenteurs des brevets vont mettre en œuvre leur protection. Parfaitement conscient du fait qu'on n'est pas, de manière générale, en faveur d'un brevet pour le logiciel européen. Bon. Les innovateurs, en fait, considèrent que c'est même une menace parce que ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte du temps pour se protéger. Si on veut se protéger, donc ça va dans le sens contraire à l'innovation. Mais malgré cela, je suis en faveur de l'objectif de la proposition. La brevetabilité dans le domaine de l'informatique va créer une plus grande transparence du point de vue de la législation et on s'écartera également de la pratique américaine où, en fait, les affaires relevant de la sphère commerciale sont patentables. Brevetable, si vous voulez, patentable en américain. Et alors, on est dans un monde qui est devenu de plus en plus petit, et la concurrence existe. Il faut éviter, bien entendu, la floraison incontrôlée des brevets. Alors, d'une manière générale, l'objectif c'est que pas de brevet pour ce qui n'est pas brevetable. Bon, déjà à l'heure actuelle. Il s'agit ici simplement de clarifier la législation, de résoudre un certain nombre d'incohérences dans l'approche des différentes législations nationales. Donc, le champ d'application de la directive devrait être limité à des cas clairs, très clairs, où tout effet négatif serait évité, notamment pour ce qui est de l'utilisation de la protection. Donc, j'ai déposé des amendements face à cette directive. Je vais vous mentionner les plus importants. Ils ont été adoptés d'ailleurs par la Commission de l'industrie. Premièrement, il faut réajuster la définition des inventions d'ordre informatique. Bon, je veux une description claire, avec des conditions claires pour la brevetabilité du logiciel. Bon, ces conditions doivent être formulées de manière claire, de manière restrictive, afin d'éviter une extension abusive de la brevetabilité actuelle. Le libellé de la directive de la Commission est trop vague et ne tient pas en compte de l'aspect technique qui est caractéristique d'une invention, contrairement à une idée. Et voilà, j'ai bien aimé votre intervention sur les idées de Beethoven et d'autres compositeurs. Donc cette distinction est différente du point de vue juridique, théorique. Il faut garantir que la concurrence dans un secteur économique donné ne soit pas obstrué par un seul acteur qui monopolise, pour ainsi dire, une connaissance, une méthode. Donc, les conditions des activités novatrices et le progrès sont ajoutées à la définition d'une contribution purement technique. Voilà. Alors, aux États-Unis, beaucoup de brevets sur des inventions bizarroïdes ont été donnés. Bon, sur tout et rien. Mais j'ai quand même entendu qu'au Congrès, il y a une proposition visant à restreindre la brevetabilité du logiciel. Sous peu. Si en Europe, il faut tirer les conclusions de cette évolution aux États-Unis. Deuxième chose que j'ai ajoutée à la proposition, là, c'est la période dite de grâce, article 4. Le logiciel et l'industrie du logiciel, en fait, c'est quelque chose qui est en progression rapide, comme vous le savez tous. La plupart des inventions proviennent des PME. Et souvent, des petites SME, start-up, ont besoin d'une période de grâce, de sorte qu'un inventeur ne se voit privé de son invention lorsque l'invention est rendue publique quelques semaines avant de demander le brevet, souvent pour tester sur le plan pratique, sur le marché même, l'invention, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la période de grâce. On en parle depuis longtemps dans le cadre des discussions juridiques. Des concepts similaires existent dans certains systèmes juridiques comme les États-Unis, mais pas aux pas au sein de l'Union européenne ni au sein de l'OEB. Il ne faut donc pas priver les inventeurs de la flexibilité, leur permettre une communication précoce. C'est nécessaire, mais il ne faut pas les étrangler au bénéfice des grandes sociétés. Autre point, troisième point, la possibilité de connecter les équipements de sorte à les rendre interopérationnels, de sorte à obtenir des réseaux ouverts et éviter par là même des positions dominantes. Et la Cour de justice qui a rendu des arrêts à ce sujet d'ailleurs. Donc, en matière de brevets, la législation ne devrait pas permettre de passer outre cette législation en matière de libre concurrence entre les différents utilisateurs. Voilà les quelques observations que je tenais à formuler. Merci. Alors, plusieurs orateurs ont demandé la parole. Il y en a 5 en tout, 6, oh, 8. Bon. Alors, s'il vous plaît, soyez bref, très très bref. À vous. Merci, madame, d'avoir fait cette petite contribution. Je voudrais vous dire deux choses. Et je vous dirai quelle sera notre réaction en vertu du principe des droits de l'homme. Premièrement, je suis un inventeur libéral, si vous voulez, de logiciels qui sont utilisés, par 100 000 personnes. Ce n'est pas peu. Ce logiciel est utilisé partout dans le monde, partout, dans presque tous les pays. La seule alternative, c'est l'inventeur d'Oracle, Oracle Developer. Ça coûte à peu près 20 000 euros. Ça, c'est l'autre solution. Alors, si vous voulez des brevets illégaux ici en Europe, il y aura deux solutions. La première solution, on applique de manière rétroactive cette législation. À ce moment-là, je suis obligé de tenter un procès au Parlement européen parce que toutes les personnes, moi compris, qui ont investi leur temps dans les logiciels sont des êtres humains. Alors, 100 000 logiciels fois 20 000 euros, c'est énorme, n'est-ce pas, comme dommages et intérêts. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. Je me prononce en leur nom. Ici, vous avez présenté une loi qui est mauvaise, mais en fait, vous comprendrez vous-même que vous êtes un peu les mendiants dans cette affaire. Mais n'oubliez pas que vous avez des droits, vous avez le droit d'aller devant les tribunaux. Si vous ne pouvez pas vous battre contre les États-Unis, contre Microsoft, vous pouvez intenter un procès à l'Europe, ou ce qu'on appelle l'Europe. Parce que si on change la législation, si l'État vous dit, bon, ben voilà, on confisque votre maison, on vous met dans un camp de concentration, et bien à ce moment-là, vous êtes en droit de demander des dommages et intérêts. Et moi, je jure devant GN Software que je vais demander une indemnité. 100 000 fois 20 000 euros, ça fait 2 milliards d'euros. Et vous devrez vendre vos diamants. Bon, deuxième chose, en tant qu'entrepreneur, toujours, expliquer comment protéger l'innovation. Bon, ma société est très petite, a été fondée en 93, on a des services de traduction en Europe, sur Internet, et on a un chiffre d'affaires d'un million. La meilleure manière de protéger, c'est de garder certaines informations au secret. Donc, je n'ai que certains clients, un certain type de clients. Deuxième manière, c'est d'être le meilleur. Bon. Et ça, c'est la définition de l'esprit d'entrepreneur. Donc, garder le secret d'une part et puis être le meilleur. Merci beaucoup.
Can I also make the point? It is traditional when you level.
Alors, quand les conditions doivent être égales, il s'agit d'enlever certains éléments plutôt que d'en ajouter. Donc, il s'agit d'enlever de la boue ou de la poussière plutôt que d'en ajouter quand on veut que les conditions soient égales pour tout le monde. Alors, pour répondre à la question précédente, cela fait plusieurs années que je m'occupe de normalisation. C'était devenu carrément impossible à cause justement de l'existence de ces brevets. En fait, c'est presque une loterie, a-t-on dit aux États-Unis.
From the recent interventions, I realize people.
D'après les interventions.
Bon, d'après les interventions que je viens d'entendre, je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte que le système de contrôle de brevets est pratiquement anarchique. Parce que si vous prenez tout ce qui est logiciel, brevet, vous avez 6 à 7 ans de retard pour ce qui est de l'examen des brevets. Mais si, par exemple, vous êtes une PME,
Vous ne savez pas si, par exemple, il y a sur 18 mois un brevet qui va sortir, mais sur 5 ans, vous ne savez pas non plus si l'Office européen des brevets trouve cela valable ou pas. Et pourtant, on a augmenté le personnel de 10% au Bureau européen des brevets par an. Alors, on dit qu'il y aura 10 fois plus de brevets par an. Alors, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, mais c'est une question de pouvoir combiner des idées.
Happen. I think we have a kind of duty even towards the honest people.
Donc je crois que nous avons vraiment une responsabilité à l'égard de ces gens. Il faut leur donner les instruments qui vont leur permettre de contrôler le système. Et là, je crois qu'il ne s'agit pas simplement de définir ce qu'est une infraction, mais aussi ce qui peut ou ne peut ne pas être breveté.
My name is Robert.
Alors, je m'appelle Robert Duan et je représente ACT Europe aujourd'hui. C'est vraiment un modèle d'une petite entreprise qui aura connu le succès en Europe. Elle a des gens qui travaillent pour elle partout en Europe. Nous avons des clients partout. Nous sommes rentables. C'est un véritable succès. Nous n'avons besoin d'aucune protection. Merci, nous en avons suffisamment ainsi. Alors, vous nous avez demandé comment nous protégeons notre travail? Pas de problème. De la même façon qu'un coureur longue distance se couvre, disons, couvre ses arrières. Il court vite, disons. Et c'est ainsi que nous arrivons sur la ligne d'arrivée avant les autres. Et nous pensons que tout système de protection, de sécurisation pour nous serait un véritable obstacle. Et ça nous empêcherait, en fait, de participer et de finir la course les premiers. Bon, bien sûr, il y a les questions concernant la rentabilité et les impacts négatifs. Eh bien, je peux vous en citer un. Pour la rentabilité de certains de nos gros adversaires, et je dois dire que je ne m'en excuserai absolument pas, tant pis pour eux. C'est justement le principe sur lequel repose le capitalisme. Il s'agit de détruire les profits engrangés par les autres en produisant de meilleurs produits que d'autres. Alors, bien sûr, je peux répéter certains de ses arguments à propos des logiciels ou des brevets sur le logiciel. Je représente, disons, ici une des innombrables compagnies qui a la même position que moi là-dessus.
Meine Damen und Herren, ich spreche hier im Namen eines Netzwerks von kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Merci. Bon. Il y a beaucoup de dynamite qui nous attend, mais bon, on nous dit que la nouvelle technologie a besoin de nouveaux concepts juridiques. Mais il y a la justice, il y a le droit. Le logiciel, comme le droit et la justice, sont des choses à mettre en œuvre. Si on avait, par exemple, un brevet sur la démocratie, où irait-on, n'est-ce pas? Et c'est en gros de ça qu'on parle ici.
I'm from Hungary.
Je viens de Hongrie et je suis venue vous dire de ne pas le faire moi aussi. Vous parlez d'incertitude juridique. Vous nous dites qu'il faut harmoniser le système de brevets à travers tous les États membres. Mais il y a une autre incertitude sur le plan juridique dont nous avons entendu parler aujourd'hui. C'est l'incertitude qui pèse sur les petites entreprises, qui ne sait pas quand exactement on va la traduire devant les tribunaux pour un brevet. Lorsque je rédige un programme, je suis sûre que c'est illégal. Parce qu'en fait, j'empiète sur les plates-bandes d'un brevet d'un adversaire. Désolée pour mon anglais, dit l'orateur, mais j'ai encore deux observations. À l'encontre des symphonies, vous avez par exemple le logiciel, l'affaire BSD, qui vous montre que nous n'avons pas vraiment de problème avec les droits d'auteur. Par ailleurs, je crois vraiment que nous avons la liberté de créer. Je crois que c'est un droit fondamental. Et le logiciel ou le brevet sur les logiciels enfreindrait à ce droit fondamental.
I give the floor to Mrs.
Merci. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue qui va de toute façon répondre aux arguments qui ont été présentés. Bon, eh bien, je note que tout l'auditoire est un petit peu subjectif, un petit peu. Pas de problème. Et tout d'abord, je voudrais féliciter monsieur qui se trouve au bout de la salle, qui célèbre 10 ans avec sa société, puisqu'il a été, créateur de sa société en 1993, et je tenais donc à le féliciter. Bon. Il n'y a pas vraiment des questions qui nous ont été posées, mais les arguments présentés sont parfaitement clairs. La plupart d'entre vous êtes des créateurs de logiciels, vous ne voulez pas de brevets. Bien sûr, j'ai entendu les représentants de tous les groupes. Et un grand nombre d'entre vous êtes venus me voir. Mais je peux vous dire que j'ai aussi entendu les représentants d'autres secteurs de l'industrie qui sont d'un avis totalement inverse. Et en tant que, disons, rédacteur de textes de loi, ce n'est pas à moi de pencher pour une ou l'autre solution. Il s'agit de rechercher un équilibre qui satisfasse l'ensemble de l'Europe et qui donne une certaine certitude sur le plan juridique. Maintenant, vous me dites que vous ne voulez pas de directive. Je vous répondrai à cela que, de toute manière, peu importe le sort qui sera réservé à mon rapport, il y aura une directive. Tout ce que nous pouvons faire ici au Parlement, c'est de rendre toute l'opération aussi transparente que possible. Non, maintenant, un instant, dit l'orateur en se fâchant. Laissez-moi parler, car je vous ai laissé la parole tout à l'heure.
Reading too much in the echelon. I did research on that, so I know everything. The point is that we are doing here the best we can, and I know that in this case...
Il y a une large coalition entre... Bon, moi-même, je suis libérale, entre les Verts, les libéraux, les radicaux et en partie les socialistes. Franchement, nous n'allons pas avoir le même texte de loi qu'aux États-Unis. Nous aurons un texte de loi qui soit aussi fonctionnel, transparent et aussi peu néfaste que possible pour tous. C'est le point de départ ici. Je puis vous dire que cette législation viendra un jour. Je dois encore une réponse à M. Aigrin qui nous a parlé de l'Office européen des brevets. Et maintenant, il y a une large coalition en Europe. En 2010, on veut vraiment un brevet communautaire. Il y a d'ailleurs un compromis qui a été conclu au Conseil des ministres. Et ça ne s'applique pas simplement aux logiciels informatiques, mais sur d'autres domaines. Et je crois que c'est à partir de là que l'on aura un véritable brevet qui s'appliquera aux inventions fabriquées par ordinateur. Nous aurons vraiment un brevet au logiciel. Et à ce moment-là, après 2010, l'Office européen des brevets ne s'appliquera plus. Mais il y a évidemment l'amendement de M. Capato que je n'ai pas d'ailleurs dans mon rapport. Alors si je compare la pratique de l'Office européen des brevets à notre quotidien, je pense que c'est une comparaison fallacieuse, puisque de toute façon, ce que nous voulons, c'est un brevet européen, un brevet harmonisé, de manière à ce que chacun sache exactement ce qu'il veut. Dès que vous aurez demandé votre brevet dans un pays, il sera applicable et légitime dans tous les autres pays d'Europe. Et enfin, avant que je vous quitte, je dois dire que je ne veux retirer votre liberté de création à aucun d'entre vous, d'ailleurs aucun de mes collègues non plus. Tout ce que nous voulons, c'est que à partir du moment où il y a création et que la personne demande de protéger sa création, eh bien qu'elle le soit de façon légitime. Et tout cela, nous le voulons en pleine liberté. Bon, je sais que de toute façon, mes paroles ne vous agréeront pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai essayé de répondre au mieux aux arguments qui m'avaient été présentés. Je voudrais remercier ma collègue d'être venue avec nous. Daniel Cohn-Bendit me dit que de toute façon, il va pouvoir faire l'impasse sur son résumé, puisque de toute manière, il ne va utiliser que 3 minutes. De toute manière, pour midi 15, nous devons en avoir terminé pour toute une série de raisons. Ce qui fait qu'il nous reste 6 minutes. Et vous pourrez donc poser vos questions. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes d'intervention. Il y a un monsieur en rouge à qui j'ai promis de passer la parole depuis un certain moment, y compris quelqu'un qui se trouve devant. Donc 6 minutes, allez-y.
Je voulais réagir à quelqu'un qui a dit que s'il n'y avait pas de brevet pour les logiciels dans quelques années, l'Europe ne serait pas concurrentielle face aux États-Unis. Bien, je ne comprends pas cela. Les brevets sont accordés pour le territoire d'un État ou pour le territoire communautaire dans le cas du brevet européen. Et s'il n'y a pas de brevet en Europe et que l'Europe, les États-Unis continuent à travailler avec des brevets, même si un jour ils vont peut-être les abolir, les entreprises européennes pourront toujours se faire concurrence en Europe tant qu'elles ne font pas des affaires aux États-Unis. Mais si elles vont faire des affaires aux États-Unis, eh bien là, il faudra respecter le droit américain. Mais une entreprise américaine ne sera pas en mesure de faire valoir un brevet américain en Europe, tout simplement. Donc je crois qu'il y aurait au contraire un avantage concurrentiel à ne pas avoir de brevet. Monsieur au fond de la salle, vous demandez la parole depuis belle lurette. Enfin, deux commentaires. Tout d'abord, je regrette que la personne qui expliquait la directive vient de quitter la salle. Il y a deux commentaires très importants qui me chiffonnent. Tout d'abord, sur quelle base harmonisons-nous la législation des brevets ? Moi, j'ai l'impression que dans les coulisses, les Américains exercent une influence terrible. Deuxième chose, quelles sont les parties qui ont fait des démarches auprès d'elle dans son bureau ? Moi, je m'imagine qu'il y a dû y avoir Microsoft. Elle ne sera peut-être pas contente de l'entendre, mais pour moi, c'est ça. Enfin, vous avez dit que les brevets sur les logiciels pourraient être une chose irréversible. Mais la commission de la culture a dit « revenez-en à 1970, à l'ancienne législation ». Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que cette directive sera adoptée et que les logiciels seront brevetables en Europe, ce sera en fin de compte le fonctionnaire derrière son bureau qui décidera de ce qui sera breveté, de ce qui ne le sera pas, qui fera cette interprétation. Et je crois que ça c'est inacceptable parce que la technologie informatique c'est beaucoup trop vaste.
Oui, merci Président. Je voudrais clarifier quelques questions. Moi aussi je regrette que Madame la députée n'ait pas pu rester parce qu'elle a dit quelques inexactitudes, je regrette de le dire. Je suis Daniel Retureau du Comité économique et social communautaire. La première chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'une directive pour harmoniser le droit des brevets en Europe. Il s'agit d'une directive qui porte sur les inventions mises en œuvre par ordinateur. Ça, c'est quelque chose de très différent de l'harmonisation du droit des brevets. Donc, clairement, quel est le but de cette directive ? Et c'est pas, là, il faut être clair. Quelles sont ces inventions mises en œuvre par ordinateur que l'on veut breveter et celles qui restent dans le domaine du logiciel qui n'est pas brevetable ? Parce que le logiciel informatique, aussi bien dans la Convention de Munich que dans la Convention de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle et, ou intellectuelle, comme vous voulez, ou au niveau des accords OMC sur la propriété intellectuelle, les logiciels sont explicitement exclus du domaine de brevetabilité. Donc que vise cette directive ? Elle ne vise pas l'harmonisation. Si on veut harmoniser, il faut un brevet communautaire, et on peut harmoniser sur la base d'un brevet communautaire, mais ensuite, elle a laissé entendre qu'en 2010, il n'y aurait plus d'office européen des brevets et plus de brevets européens, mais seulement un brevet communautaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des pays qui ne sont pas dans la communauté qui sont membres de l'Office européen des brevets. Et à l'Office européen, vous choisissez les pays dans lesquels vous voulez que votre brevet s'applique. Le brevet communautaire sera géré par l'OEB. mais ça sera un système juridique communautaire. Ça ne remplacera pas le brevet européen et l'OEB ne sera pas communautarisé. Donc je crois quand même qu'il faut être sérieux quand on parle devant une assemblée de questions juridiques et de questions de fait de grande portée. Et moi je trouve, et je regrette qu'elle ne soit pas restée, parce que j'aurais dit franchement, madame, vous êtes en train de dire n'importe quoi, excusez-moi.
Madame Ploy nous a quittés, mais Monsieur Capato, qui est député dans la même commission, est parmi nous. Tout simplement pour dire que, en termes de stratégie, nous devons d'abord accepter l'idée qu'il y aura de toute façon une directive. Donc je crois qu'au plan stratégique, nous devons être prêts à aller à l'encontre de cette directive plutôt. Bien sûr, l'autre approche, ce serait d'exploiter la proposition sur la table pour exclure le plus possible la brevetabilité des logiciels en Europe. Et cela pourrait se faire en s'entendant peut-être autour d'un certain nombre de critères si contraignants, si rigides, que la brevetabilité serait impossible. Nous travaillons par exemple sur l'idée que seuls les logiciels directement intégrés dans des applications technologiques pourraient être brevetés. Mais moi, je ne suis pas expert en la matière. Mais s'entendre sur des restrictions très, très, très fortes serait également une possibilité. On exploiterait ainsi la proposition sur la table pour exclure au maximum la brevetabilité des logiciels. Mais si cette opération s'avérait impossible, là je crois qu'il faut, je me corrige donc, je crois qu'il faut être prêt à unir toutes nos forces contre la directive, point à la ligne. Je m'excuse très sincèrement à tous ceux qui ont encore demandé la parole, mais nous n'avons plus de temps. Richard Storm m'a demandé encore une demi-minute pour faire une dernière intervention, et puis Danny va boucler tout cela. Richard, vous avez vu, juste après mon intervention sur la confusion du mot protection, hein, vous avez vu un certain nombre d'exemples dans l'intervention du rapporteur et dans l'intervention là-bas de ce côté-là de la salle. On utilise un mot pour résoudre un problème fictif. Comme si le vrai danger, c'était la concurrence. Alors que ce n'est pas ça le danger. Le danger, ce n'est pas la concurrence, c'est d'être enlisé dans des procès interminables. Et alors, on a également entendu la question de la concurrence entre l'Europe et les États-Unis. Je crois que j'ai bien compris la personne qui est intervenue, et je crois qu'elle avait raison. Mais pour résumer, je dirais ceci. Permettre la brevetabilité des logiciels dans votre pays, c'est permettre la guerre des gangs. C'est permettre aux entreprises d'aller placer des mines antipersonnelles autour des bureaux de l'entreprise concurrente. S'il doit y avoir concurrence en matière de brevetabilité, c'est une concurrence pour ne pas le faire. Jusqu'ici, les États-Unis ont eu la mauvaise idée de breveter les logiciels. Donc cela veut dire que nous pouvons en fait être attaqués par n'importe qui dans le monde, nous, pauvres Américains. Mais si vous refusez la brevetabilité logicielle, vous ne pourrez pas être malmené chez vous. Alors, si vous allez aux États-Unis, d'accord, les gangs américains vont peut-être vous attaquer au nom de certains brevets, mais au moins, vous serez en sûreté chez vous. C'est mieux que d'être en sûreté nulle part.
Call him Danny Cohn.
Danny Cohn-Bendit en tant que co-président du groupe des Verts Alliance Libre Européenne au Parlement Européen pour le mot de la fin.
Ce qui a été dit, puisque tout ce que vous avez dit a été breveté et donc vous le possédez et ça a été très clair, donc je ne vais pas rajouter un brevet au brevet que vous avez tous déposé devant le Parlement Européen. Je voulais simplement dire une chose, il y a un projet, une proposition de résolution ici qui peut être signée par ceux qui veulent, donc vous l'avez devant vous, elle vient d'être distribuée, ou on va vous la distribuer, et ceux qui veulent la signer, la signent, et déposent après leur signature là, sur la table à l'entrée. Pour récapituler, il y a quand même quelque chose de très drôle qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui est drôle ? C'est qu'en fait, on s'aperçoit que tous les défendeurs de tous ceux qui défendent le capitalisme et le marché, à un moment, ont peur de la liberté du marché, et que tout d'un coup, tous ceux qu'on croyait des grands capitalistes ou des partis libéraux ou je ne sais qui, deviennent des socialistes, c'est-à-dire qu'ils veulent réglementer, qu'ils veulent en fait casser la liberté du marché. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'ici, vous avez des, on les a entendus, des petites entreprises qui disent « Please leave us alone ». We live wonderful like it is. Leave us alone. And we don't need...
Fichez-nous la paix, on n'a pas besoin de votre protection.
Il y a tous les travailleurs sociaux du capitalisme mondial qui disent « Ah non, on n'a pas le droit de laisser les pauvres petits tout seuls. Ils ont besoin de notre protection. Donc, c'est dans votre intérêt que vous ne connaissez pas... » Et donc, je crois que la réflexion à long terme qu'on ne fera pas aujourd'hui, c'est un vieux débat sur qu'on a, que les partis politiques ont, sur la liberté et le marché. Il est sûr et certain qu'il y a des tas de situations dans le monde où le marché a besoin d'être régulé. Si vous voyez la mondialisation, il y a des sûrement. Mais... Et je crois que l'exemple qui avait été donné sur la musique, la symphonie, l'innovation, etc., est tout à fait juste. Il y a visiblement dans les logiciels quelque chose qui non seulement ne veut pas de régulation, mais qui justement doit se protéger de la régulation si on veut défendre la liberté d'inventer. Et donc, moi, je ne sais pas ce qui sortira du débat du Parlement, mais ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si ça va marcher avec leurs lois ou leurs directives, mais il y a après une possibilité, c'est de trouver un moyen de se mettre ensemble pour leur proposer des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de brevets qu'ils ne pourront jamais délivrer parce qu'ils auront des milliers et des milliers de décisions à prendre avec 500, 600 pages et on trouvera bien quand même un moyen de démontrer qu'une anarchie voulue bloquait une mauvaise directive. Merci. Donc, vous avez, pour finir... You have the resolution you want to sign.
Il y a cette résolution que vous voulez sûrement signer. Et après 12h30, il y aura une réunion, une manifestation, un événement en place de Luxembourg. Vous pouvez boire un coup, manger quelque chose, enfin démontrer de mille et une manières ce qu'est la liberté. Merci d'être venu.